Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous dans ce bulletin d'information. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte et le Sénégal s'affrontent à Yaoundé. Les deux pays sont portés par les stars de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané. Ismaïla Sarr est titulaire dans l'attaque du Sénégal avec Sadio Mané, aligné à droite avec Sadio Mané à gauche et Famara Diédiou en pointe. Sarr est le seul changement dans l'équipe du Sénégal par rapport à la demi. Il prend la place du Marseillais Bamba Dieng. L'Égypte aussi n'a changé qu'un seul joueur par rapport à son match contre le Cameroun. L'arrière droit Omar Kamal suspendu est remplacé par Emam Achour. Mo Salah évolue comme toujours à droite du 4-3-3 avec Mostafa Mohamed en pointe et Omar Marmouche à gauche. La 8e CAN de l'Égypte ou la première du Sénégal, nous le saurons après le coup de sifflet final. Sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, les dirigeants africains ont condamné dimanche sans équivoque la récente vague de coups d'État sur le continent. L'Union africaine a en revanche choisi de ne pas afficher ses dissensions sur le sujet hautement sensible de l'accréditation d'Israël. Cette décision, prise en juillet par le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, divise l'organisation. Plusieurs États membres, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, se sont insurgés, estimant que ce choix va à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens. Au Burkina Faso, une commission a été mise en place pour élaborer un projet de charte et d'agenda de la transition, indique un décret présidentiel signé par le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est rendu public hier. Cette commission composée de 15 membres va notamment élaborer un projet de charte et d'agenda assorti d'une proposition de durée de la transition et des modalités de mise en œuvre dans un délai de 2 semaines, précise le décret. La commission devra toutefois procéder à une consultation des forces vives et un recours à l'histoire nationale et aux expériences d'ailleurs, tout en privilégiant l'innovation et l'imagination créatrice, indique le décret. En RDC, des partisans du parti du président Félix Tshisekedi ont manifesté dimanche à Kinshasa. Ils ont bloqué une partie d'une grande artère et caillassé des véhicules de particuliers, a dit le porte-parole de la police congolaise. Cette manifestation des partisans du parti présidentiel serait liée à l'interpellation samedi de François Béa, conseiller spécial chargé de la sécurité du président Tshisekedi, par l'Agence nationale de renseignement. En Tunisie, le président Kais Saied a annoncé la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, organe de supervision judiciaire qu'il accuse de partialité. Une vague d'émotion au Maroc et dans le monde entier a accompagné la mort tragique du petit Rayan, coincé pendant 5 jours au fond d'un puits dans une région pauvre du nord du royaume. Un drame humain a amplifié par les réseaux sociaux. Le pape François, visiblement ému, a salué tout un peuple marocain qui s'est rassemblé pour sauver Rayan lors de la prière de l'Angelus célébrée au Vatican. Au moins 6 personnes sont mortes lors du passage du cyclone tropical Batsirai à Madagascar dans la nuit de samedi à dimanche, contraignant près de 50 000 personnes à quitter leur foyer et à faire face au risque d'inondation, indique le responsable de la gestion des catastrophes à Madagascar. La marine tunisienne a secouru samedi 63 migrants, pour la plupart des Tunisiens, dont des femmes et des enfants, au large de Sfax, un point de départ important vers les côtes européennes, plus précisément vers l'Italie. La reine Elisabeth II est devenue dimanche le premier monarque britannique à atteindre les 70 ans de règne. Dans un message publié à l'occasion de son jubilé de platine, la souveraine de 95 ans a renouvelé son engagement à servir les Britanniques. Les États-Unis, qui ont déployé 3000 soldats en renfort en Europe, n'ont pas envoyé ces troupes pour déclencher une guerre contre la Russie en Ukraine, a affirmé dimanche le conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, Jack Sullivan, qui a également estimé sur NBC qu'une escalade militaire et une invasion de l'Ukraine pourraient intervenir n'importe quand. La présidence ukrainienne a minimisé ses propos.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza en votre compagnie, Lionel Brunanilagaïma assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la lecture de la Bible. Selon Wikipédia, la Bible est un ensemble de textes sacrés pour les juifs et les chrétiens. Bien qu'elle ne soit pas un livre de blagues, elle n'est pourtant pas dénuée d'humour. Ceux qui lisent la Bible nous parlent toujours de joie. Ça donne envie de dire, en tout cas, comme Martin Luther, si on ne peut pas rire au paradis, je ne tiens pas à y aller. Pour en parler, je suis en ligne avec Thérèse Kanyangé, elle est à Montréal au Canada. Bonsoir Thérèse.
Bonsoir Eric.
Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de rigoler, dit une béatitude citée dans Matthieu 5. Vous aimez sûrement rire, Thérèse.
Oui, absolument. Je pense que ça fait partie de mes moindres défauts.
Ça fait plaisir de vous entendre rire, Thérèse. Est-ce pour cette raison que vous aimez lire la Bible?
J'aime beaucoup lire la Bible parce que, comme vous l'avez dit, on y trouve beaucoup de joie, beaucoup de raisons d'espérer. Hein, parce que c'est sûr que depuis la chute de l'homme, il y a beaucoup de détresse. Dans ce monde, il y a des larmes, il y a de la tristesse. Donc la Bible, c'est quand même un livre où on peut trouver beaucoup de raisons d'espérer. Et au-delà justement de cette tristesse, de cette noirceur qu'on trouve dans le monde, la Bible nous donne une raison d'espérer, de se lever le matin, de dire « je suis créé, je suis aimé par Dieu, le Tout-Puissant ». Donc oui, certainement, je dirais vraiment, dans la Bible, on trouve une raison de se réjouir au quotidien.
Et vous riez après ou en lisant?
Ben, le sourire, on le trouve quand on a de l'espérance. Une personne qui est triste hein, ne peut pas sourire parce que la joie, elle jaillit de l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on peut feindre ou faire semblant. Donc, des fois, je peux même pleurer, mais en étant heureuse dans mon cœur. Donc, rire pendant ou après, ça, je ne saurais le dire.
Les phrases ou les paraboles de Jésus ne manquent pas d'humour, Thérèse, quand il dit qu'il est aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Mais au-delà de cette phrase, comme nous l'entendons littéralement, quel est le message de Jésus à travers cette phrase?
Bon, je dirais que c'est une très belle question, hein, parce que justement, la Bible, c'est un livre qui est constitué, c'est une bibliothèque, donc elle est constituée de plusieurs livres. Et puis, c'est sûr que la Bible, il faut vraiment pas la lire de manière littérale, comme vous venez de le dire. On trouve des textes poétiques, des textes apocalyptiques, des épîtres, des paraboles. Et puis ce texte que vous venez justement de nommer, c'est une parabole, mais qui ne veut pas dire qu'un riche ne pourrait pas rentrer au paradis. Donc il faut aussi analyser le texte dans son contexte social. Hein. Et quand on parlait du trou d'une aiguille, c'était à l'époque un genre de trou qu'on trouvait sur un mur. Et quand, par exemple, parce que les villes avaient des battants, on devait fermer chaque ville le soir pour qu'il n'y ait pas des étrangers ou bien des brigands ou bien des invasions externes qui rentrent dans la ville. Donc, ce qu'on faisait, on fermait les battants des portes de la ville et on laissait comme un genre de petit trou où on pouvait faire passer le chameau d'une personne lorsque, par exemple, il y avait un retardataire qui rentrait tard alors qu'on avait déjà fermé les portes de la ville. Ce qui fait qu'on devait dépouiller le chameau, enlever tout ce qui se trouvait sur le dos du chameau, et le chameau devait s'agenouiller et passer par le trou de ce mur qu'on appelait le chat d'une aiguille. Donc ça suggère une forme d'humilité. Donc, pour qu'un riche rentre dans le royaume de Dieu, il faut qu'il se dépouille de toute sa gloire, de toute sa richesse, exactement comme le ferait ce chameau-là, que le chameau s'agenouille. Donc, l'image est que le riche se dépouille, qu'il s'agenouille et qu'il passe par le chat d'une aiguille. Donc, ça veut dire que ce n'était pas impossible pour un riche de rentrer, mais il devait vraiment se dépouiller, s'agenouiller et oublier toute sa gloire pour pouvoir hériter du paradis, comme vous le dites. Donc, c'est vraiment une image qui est quand même assez éloquente pour la société de l'époque. Un juif de l'époque, il comprenait tout de suite ce qu'on veut dire, mais c'est sûr qu'avec les lunettes actuelles ou bien la compréhension moderne, quand on lit ça et qu'on ne connaisse pas le contexte, on pourrait s'y déprendre.
Jésus compare aussi le royaume de Dieu à une graine de moutarde.
Oui.
Thérèse, quelle est l'importance de lire la Bible? Vous avez souligné tout à l'heure la joie que la Bible apporte au lecteur. Quoi exactement?
Le but premier de la Bible, ce n'est pas un livre historique, ce n'est pas un livre scientifique. Il y a des gens qui essayent de faire ce qu'on appelle le concordisme, donc d'essayer de concorder les écrits de la Bible avec les vérités scientifiques actuelles, ce qui fait que souvent il y a comme des débats ou des combats entre la foi et la science. Mais la parole de Dieu ou la Bible nous dit tout simplement que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Donc le but de la Bible, c'est de donner la foi à la personne qui est en train de lire afin que la personne croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça à la base le but de la Bible.
Est-ce que ça va de pair avec de la méditation?
Ça va de pair avec de la méditation, mais je me dis que peut-être que la méditation naît dans le cœur de la personne qui croit déjà. Parce que les textes de la Bible peuvent paraître des fois obscurs hein, pour une personne qui n'est pas née de nouveau, s'il faut que j'utilise un jargon très, très évangélique. Donc si la personne n'est pas née de nouveau, si elle n'a pas la foi, si elle n'a pas accepté que Jésus est son sauveur, c'est très difficile de méditer. C'est sûr qu'on peut trouver de magnifiques textes dans les psaumes, dans les cantiques, dans les proverbes que n'importe qui pourrait lire. Est-ce que ça peut la porter à méditer? Probablement. Mais je me dis que la méditation naît généralement dans le cœur d'une personne qui croit déjà.
Quand on lit un roman ou tout autre livre, on commence par la première page, etc. Est-ce que la Bible, on procède de la même manière? Par où commencer?
On pourrait procéder de la même manière. Je connais des personnes, par exemple, qui lisent la Bible en un an. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, ils partent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils vont lire la Bible. Mais je pense que c'est bien de lire la Bible en étant comme, je vais encore utiliser le jargon évangélique, donc poussé par l'Esprit. Le Seigneur te conduit ou le Saint-Esprit te dit, écoute, va lire par exemple le livre d'Esther. Des fois, je peux me sentir portée à aller lire le livre, par exemple, l'Épître aux Corinthiens, alors que je traverse des moments particuliers de ma vie. Et quand je lis un texte dans Corinthiens, au lieu de lire Esther, je me rends compte qu'il y avait exactement la réponse à ma question ponctuelle ou bien aux interrogations que j'avais de manière ponctuelle. Donc, je dirais oui, on peut lire la Bible comme on lirait un livre, tout autre livre, mais aussi on peut être dirigé par le Saint-Esprit et tomber sur un passage et puis lire la suite et être touché ou bien interpellé par le Saint-Esprit à travers cette portion des Écritures.
Vous lisez régulièrement la Bible, vous donnez même des enseignements. Qu'est-ce que vous enseignez le plus souvent à votre audience?
Oui, c'est ça. Dernièrement, j'enseignais sur la vérité. Donc, j'ai une série d'enseignements sur la vérité. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des slogans, la vérité, la liberté. On voit que la plupart des gens en ont un peu ras-le-bol hein, avec tout ce qui se passe avec le confinement, le vaccin. Les gens veulent savoir exactement ce qui se passe. Et puis, j'ai trouvé intéressant de parcourir le livre de Jean, les évangiles selon Jean, parce que c'est un des livres, j'ai constaté que c'était un des livres où on mettait vraiment l'accent sur la vérité. Et puis, Jean, il va présenter la vérité comme étant une personne. donc que Jésus est la vérité. Donc durant ces quelques mois, peut-être durant tout ce mois de février, je vais enseigner sur la vérité. Des fois, je peux enseigner juste sur la doctrine hein, pour que les gens puissent avoir la bonne base, ne pas être dans l'hérésie, ou bien en voyant ce qui se passe dans le monde et puis en priant, le Seigneur peut me conduire à toucher certains thèmes justement pour que les chrétiens soient avisés et ne soient pas déstabilisés avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça dépend. Des fois, je peux enseigner sur la doctrine, tout comme je peux enseigner sur des réalités qui se passent dans le monde, mais en m'appuyant sur la parole de Dieu qui est la Bible.
Thérèse, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions. On parlait de la lecture de la Bible.
Merci à vous. Tout le plaisir est à moi.
Tous les jours, effectivement, j'ai célébré la messe ce soir, oui.
Quel était le sujet de l'évangile?
Au moment où nous parlons, c'est le 2 février, qui est dans l'Église catholique, la fête de la présentation de Jésus au Temple. C'est 40 jours après la naissance. Il a été consacré au Seigneur par la Vierge Marie. Et c'est à cette occasion-là que le prophète, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne ont dit de belles choses, de profondes choses sur l'avenir de cet enfant qui est à la fois un signe de contradiction et une révélation de la lumière du Seigneur qui vient nous visiter. Voilà, ça c'est ce qu'on célèbre le 2 février.
On parle de la lecture de la Bible ce soir dans le dialogue des religions. Mon père, comment lire la Bible?
Je reposerai une autre question pour vous répondre, c'est comment recevoir la Bible? Parce que la Bible, en réalité, le mot Bible, Biblia, ça veut dire les livres. C'est-à-dire, c'est un recueil de plusieurs livres écrits en plusieurs circonstances. Donc, dont l'ensemble forme ce que nous recevons comme la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation de Dieu qui se manifeste au fil et à mesure de la révélation à travers les prophètes, les rois, jusqu'à Jésus-Christ, qui est l'ultime parole du Père. Alors, comment la recevoir? Il y a, si vous voulez, il y a deux manières de lire la Bible. La première manière, c'est de la lire comme étant la parole de Dieu, c'est-à-dire la recevoir comme une source d'inspiration, un indicateur éthique, une parole qui nous permet de vivre selon les préceptes et selon la révélation de Dieu. Ça, c'est une première manière. Puis vous avez une seconde manière, puisque c'est une parole aussi qui est dans des circonstances différentes, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de réalités, de la recevoir aussi comme une parole qui incarne des valeurs que tout homme, toute femme peut vivre, peut suivre. C'est pour cela que même quelqu'un qui peut-être n'est pas spécialement croyant ou spécialement pratiquant peut être touché par la Bible. Mais là, en l'occurrence, en matière de religion, nous recevons la Bible comme étant l'écriture sainte, comme étant inspiré et voulu par le Seigneur lui-même, et donc comme étant vraiment sa parole. Voilà.
Par où commencer? Parce que on peut s'ennuyer aussi.
Alors, par où commencer? C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a plusieurs livres dans la Bible. Comme je l'ai dit, elle est liée à plusieurs circonstances. Par exemple, si vous lisez dans les cinq premiers livres de la loi, ce qu'on appelle le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, vous avez la Genèse, vous avez l'Exode. Alors puis vous avez des livres spécialement autour de la loi, par exemple le Deutéronome, le livre du Lévitique. Quand vous lisez le Lévitique ou le Deutéronome, vous pouvez vous dire, mais tous ces préceptes, toutes ces règles, tous ces commandements et autres injonctions, à quoi peuvent-ils me servir maintenant? Effectivement, on peut s'ennuyer, mais je pense que l'une des plus belles manières que je pourrais proposer à quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la Bible, c'est de commencer par les évangiles. Étant donné que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui est mort et ressuscité pour offrir la rédemption aux hommes et aux femmes de ce temps, eh bien, c'est le cœur même, c'est la base, c'est le socle de la foi chrétienne. Pourquoi pas commencer par les évangiles, qui la vie de Jésus est un accomplissement des prophéties, de tout ce que les prophètes avaient dit de lui. Et ensuite, alors commencer par l'Ancien Testament, en commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on comprend mieux.
Y a-t-il une prière à réciter avant de lire la Bible ?
Il y a plutôt, je dirais, d'abord une disposition intérieure que l'on doit avoir quand nous lisons la Bible, en tout cas de manière religieuse. La disposition intérieure, c'est de se dire « je vais recevoir la parole de Dieu ». C'est une parole qui est adressée à tout homme. C'est une parole, on va dire, qui est intemporelle parce qu'elle transcende le temps, elle traverse les histoires, elle nous montre la volonté de Dieu qui vient visiter le cœur de l'homme. Par exemple, je vous donne un verset qui, chaque fois que je tombe dessus, me touche personnellement. Quand il est dit dans le livre des Proverbes, je cite, « Le cœur de l'homme est compliqué et malade, qui peut le guérir ?» Et nous savons très bien que dans chacun d'entre nous, il y a comme un combat intérieur, comme des doutes, des moments d'angoisse, des moments de crainte, des moments de combat. Et dans ce cas, la parole nous rejoint telle que nous sommes dans la situation que nous vivons. Donc c'est une disposition intérieure d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu et ensuite d'invoquer le Saint-Esprit pour dire que « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je lis et ensuite à recevoir ce que j'ai compris et à mettre en application ce que j'ai reçu. » C'est-à-dire, Jésus dit dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Parfois, la parole de Dieu, elle peut nous heurter, elle peut nous choquer, elle peut nous bousculer, elle peut même nous emmener dans nos derniers retranchements parce qu'elle peut être une source de condamnation, de remise en question. Et bien de recevoir cela dans la foi, c'est de dire « Seigneur, c'est toi qui me parles, ici, au cœur de ma lecture, dans ce lieu solitaire qui peut être ma chambre ou l'église, eh bien, que veux-tu me dire ici et maintenant ? » Et donc, dans ce cas-là, invoquer le Saint-Esprit pour que la sagesse et l'intelligence du Seigneur me soient données, parce qu'il ne suffit pas de lire la Bible, encore faut-il recevoir la parole que nous recevons, que nous écoutons. Et c'est pour cela que, par exemple, dans les lettres de Saint Paul, il aime à dire, avertir qu'il faut recevoir la parole comme n'étant pas uniquement venu des hommes, mais venu de Dieu et qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et ensuite, dans un second temps, lorsque le besoin s'en fait sentir, recevoir la parole avec toute la foi de l'Église. C'est-à-dire la parole, je la reçois certes pour moi-même, mais je gagne à écouter et à recevoir le témoignage de tous ces gens qui s'en ont inspirés et qui ont grandi au fur et à mesure de la parole qu'ils ont reçue.
Est-ce que lire la Bible va de pair avec une vie de méditation ?
Effectivement, méditer la parole de Dieu suppose prendre le temps, disposer son cœur et la recevoir intérieurement. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui lit la Bible, je vais reprendre une belle image qu'utilisait un de mes anciens professeurs d'exégèse qui n'est plus de ce monde, mais qui disait « La plus belle manière de rendre propre une Bible, c'est de la salir. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il disait que les meilleures pages de la Bible, ce sont les pages jaunies parce qu'on les a fréquentées, parce qu'on a souligné, parce qu'on a relevé, parce qu'on a pris le temps de vraiment les toucher. Et donc, il faut lire les livres, selon l'expression hébraïque qui est très belle aussi, les livres qui souillent les mains. C'est-à-dire, il faut vraiment la parole de Dieu la recevoir dans son cœur et méditer. Méditer, c'est vraiment réfléchir sur ce qu'on a reçu et ça nous implique à quoi ? Ça nous incite à quoi ? Dimanche dernier, on lisait à l'église l'évangile où Jésus dit « Faites attention à la manière dont vous entendez les paroles que je dis. » Parce que écouter le Seigneur, c'est-à-dire recevoir, c'est se souvenir qu'il est présent, qu'il est là. N'oubliez pas que la Bible nous dit le Verbe, c'est-à-dire la parole éternelle du Père qui est Jésus-Christ, s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Elle continue à nous guider. Par contre, contre, il faut aussi faire attention à certaines interprétations qui peuvent être à problème ou sujet à caution.
Les catholiques ou les évangélistes ne lisent pas la Bible de la même manière, si je ne me trompe pas. Il y a aussi des musulmans qui lisent le Coran. Y a-t-il un lien ?
Si vous voulez, je vais commencer par le lien. C'est que dans les deux cas, nous sommes face à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on la reçoit comme étant une parole qui vient vraiment de Dieu et qui s'adresse aux croyants. Ensuite, vous avez plusieurs... manière différente d'aborder ou d'approcher le texte. C'est-à-dire que dans la grande famille des chrétiens, vous avez, si vous voulez, trois grandes branches qui sont le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie. Les catholiques et orthodoxes, on est plutôt proches dans la manière de recevoir la parole de Dieu. Mais dans la famille des protestants, vous en avez plusieurs types. Il y a des évangéliques, il y a des luthériens, il y a des méthodistes. La différence n'est pas tant au niveau de la manière de recevoir que dans l'interprétation. C'est-à-dire que vous avez par exemple des livres qu'on qualifie de deutérocanoniques. Il y en a 7 que reçoivent dans leur corpus des livres de la Bible que reçoivent les catholiques et les orthodoxes. Mais c'est surtout au niveau aussi de l'interprétation où on va avoir une différence. C'est ce qu'on appelle en termes savants l'herméneutique biblique, c'est-à-dire la manière dont on interprète le texte que l'on lit. Et là, il y a des différences qui peuvent être fondamentales parce que vous pouvez avoir ce que j'appellerais un fondamentalisme biblique, parce que à force de dire l'écriture seule, eh bien, la manière de l'interpréter peut être très littérale et parfois ça peut présenter des sujets à caution. Je vous donne un exemple, parce que des fois, il faut vraiment remettre dans le contexte de l'écriture. Quand il est dit, un exemple tout bête, hein, quand il est dit dans la première aux Corinthiens qu'aucune femme ne doit prendre la parole et que les cheveux doivent être couverts, nous sommes au premier siècle dans une circonstance du monde Moyen-Oriental où la femme n'avait pas tellement de place, et maintenant on voit dans les églises, dans toutes nos églises chrétiennes, des femmes lire la parole, ou même pour le cas par exemple de l'église catholique, des femmes donner des temps de catéchisme et donc d'expliciter la parole à d'autres personnes qui sont là, ce qui ne pouvait pas être le cas du temps de Saint Paul, qui va écrire plein dans une en référence aux premiers judéo-chrétiens, qui étaient des chrétiens issus du monde juif. Vous voyez, donc, si l'on interprète littéralement ce passage-là, eh bien, on dira que quiconque ne fera pas pareil, eh bien, il n'est pas dans le droit chemin. Donc, nous, ce que l'Écriture sainte est la première source de foi de toute l'Église chrétienne, mais l'Évangile continue à s'approfondir, à se recevoir. C'est pour cela que, par exemple, quelqu'un comme Saint Jean va écrire à la fin de son évangile que Jésus a fait beaucoup plus que ce qui n'est écrit dans les évangiles et que si on devait l'écrire, on n'en finirait pas. Donc c'est au niveau de l'interprétation. Alors j'imagine, pour le peu que j'en sais, que nous avons les mêmes difficultés d'interprétation dans le monde musulman. Mais j'aimerais simplement dire une dernière chose par rapport à quelque chose qui est assez extraordinaire avec la Bible, c'est que la Bible est à la fois parole de Dieu, mais elle est aussi entièrement écrite et donnée dans un langage humain. C'est pour cela que c'est une parole qui peut se recevoir humainement, puisque Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, c'est l'incarnation, et donc il a parlé le langage des humains. Pour comprendre ce que je dis, c'est que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, sauf les 7 livres dont je parlais tout à l'heure. Le Nouveau Testament est écrit en grec. La première traduction de la Bible s'est faite en latin, qu'on appelle la Vulgate, et nous la recevons maintenant dans toutes les langues du monde entier. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'un livre comme le Coran qui, lui, se reçoit et se lit encore en arabe. Donc à partir de ce moment-là, l'approche n'est pas tout à fait la même. Nous, c'est une parole qui n'est pas des fois directe, mais qui est passé par des prophètes, qui est passé par des rois, qui est passé par des livres de sagesse, jusqu'à la parole ultime, qui est Jésus-Christ. Et donc la révélation s'est manifestée progressivement. Et donc on peut la recevoir aussi en cette logique-là, tout en sachant que c'est vraiment Dieu qui nous parle et qui nous parle aujourd'hui et maintenant.
Merci beaucoup, mon père. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. consacré à la lecture de la Bible. Eric Manirakiza était à la présentation, la mise en onde, l'hymne de la Kaïma. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.